France Musique. You got it. Got the white. Got the white. Got the white. Sei glücklich. Sei glücklich. Komm nicht zu spät. Komm nicht zu spät. Komm nicht zu spät. Eh bien, comme il se doit au théâtre lyrique, on va ouvrir donc cette séance d'à pleine voix avec l'ouverture de Fantasio de Jacques Offenbach, donnée ici en version concert, c'était le 18 juillet dernier au festival de Radio France Montpellier, dans le cadre de l'opéra Berlioz, avec l'Orchestre National de Montpellier, Languedoc-Roussillon, dirigé par Friedman Laier. En version de concert, car depuis la création de cet opéra comique en 3 actes et 4 tableaux, donc créé le 18 janvier 1872, Salle Favart, eh bien, il n'y a pas eu de représentation scénique. Et donc, presque 150 ans plus tard, c'est le metteur en scène Thomas Joly qui va s'emparer de cet ouvrage à la destinée un peu contrariée. On va en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas Joly, d'être parmi nous.
Merci à vous, bonsoir.
Nous avons également convié donc à cette table Jean-Christophe Keck, que les auditeurs de France Musique connaissent bien, et qui a réalisé l'édition critique pour Bouzet & Aux de ce Fantasio. Jean-Christophe, cette partition n'a plus de secret pour vous, et on va vous poser donc beaucoup de questions pour comprendre tous les enjeux sociopolitiques qui ont présidé à la naissance aussi du genre opéra comique. On aura l'expertise aussi de Mathias Auclair, qui dirige depuis peu le département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, et également de la très très belle bibliothèque musée de l'opéra, où il y a beaucoup de documents qui concernent Fantasio. On a le plaisir également d'avoir parmi nous Elisabeth Giuliani, qui avait précédé Mathias Auclair à la direction de ce département. On entre tout de suite dans l'aventure de Fantasio, peut-être quand même, pour comprendre cette odyssée. Je parlais de destinée contrariée de cette œuvre, Jean-Christophe Keck. Cette œuvre n'a pas eu le succès que l'on aurait pu imaginer.
Non, mais en fait, le manque de succès est vraiment dû à un problème politique plus qu'artistique, c'est clair. C'est-à-dire que Offenbach arrive avec ce projet dans la pire période de sa vie, c'est-à-dire à l'issue de la guerre franco-prussienne, projet qu'il a d'ailleurs commencé à mettre en place avant la guerre, en 1869, ou alors il est au sommet de sa carrière. Malheureusement, donc, cette guerre pour lui est un désastre, parce que on sait qu'il est d'origine allemande, d'origine prussienne, naturalisé français. Et justement, après la guerre, donc les Prussiens et les Allemands disent que c'est un traître qui est passé à l'ennemi, et les Français disent que c'est un espion carrément à la solde de Bismarck. Donc c'est vraiment une situation horrible pour lui. Il est obligé de fuir au moment de la guerre. Il part en Espagne, en Italie, il reviendra quelques temps après. Et quand il va revenir, justement, c'est au milieu d'une ambiance horrible pour lui. C'est-à-dire qu'on sait par des articles de presse, des choses comme ça, que même pendant les répétitions de Fantasio, les musiciens faisaient exprès de mal jouer pour vraiment nuire à l'œuvre, quoi. Offenbach avait une méthode de travail bien particulière aussi. C'est qu'au lendemain de cette première représentation, souvent, il modifiait passablement sa partition. Il jugeait très bien ce que le public avait aimé ou pas aimé, et il revoyait sa partition dans ce sens-là. Et là, en fait, le directeur de l'Opéra Comique, Camille Duloc, ne lui a même pas laissé cette occasion. Alors que Duloc, là, en plus, était co-auteur du livret de Fantasio, proche ami d'Offenbach. Offenbach lui en voudra jusqu'à la fin de sa vie, parce que pour lui, il avait mis toute son âme dans cette partition. Et Duloc, par couardise et surtout peur de l'opinion publique, a dit « Non, non, on supprime ça de l'affiche dès la 10e représentation », alors qu'en attendant un petit peu, sûrement la sauce aurait prise, en tout cas.
Oui, d'autant plus que le livret était à partir d'un texte d'Alfred de Musset, qui était quand même le grand auteur du Second Empire. Une relation d'ailleurs forte et ancienne entre Offenbach et Musset.
Mais Musset a une présence prépondérante dans toute la carrière d'Offenbach. C'est, dit-on, grâce à Musset qu'Offenbach est devenu directeur de la musique à la Comédie Française. On lui a demandé d'écrire une musique de scène sur Le Chandelier, pièce d'Alfred de Musset, donc. Et puis, malheureusement, ça a été un raté. La première rencontre a été un échec parce que il a écrit une très très belle mélodie pour le comédien Delaunay, qui paraît-il avait une voix qui charmait les dames. Mais dès que ce monsieur se mettait à chanter, il avait une voix de basse profonde, horrible, qui ne correspondait pas du tout à ce qu'Offenbach avait écrit. Donc, pendant quelques temps, on a simplement déclamé, sans musique, cette fameuse chanson de Fortunio, qu'Offenbach, quelques années après, reprend dans une opérette qu'il appelle La chanson de Fortunio, et qui est une suite parodique au Chandelier de Musset, où tous les personnages ont vieilli. Enfin bon, c'est tout à fait de l'Offenbach, très amusant d'ailleurs. Et alors, ce qui est amusant, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, Offenbach va avoir cette espèce d'admiration profonde et intérieure pour Musset, puisque dans les Contes d'Hoffmann, il va demander à son librettiste de citer Musset. Et il va le citer à plusieurs reprises. Déjà, à un moment dans le prologue, Lindor dit « Il ne faut jurer de rien ». Bien sûr, c'est la fameuse pièce de Musset, « Il ne faut jurer de rien ». Et puis, à la fin, il y a carrément un texte de Musset entier qui est repris avec la muse. Donc tout ça, ils sont très très proches. Et quand on voit ce qui était Offenbach en fait, et ce qui était Fantasio, le personnage de Fantasio, on se rend compte que Offenbach s'identifiait énormément à tout ce romantisme de Musset.
Peut-être que là, on va pas faire écouter cette basse profonde de la Comédie Française dans la chanson de Fortunio. Nous avons une version beaucoup plus intéressante, Yvonne Printemps, évidemment, dans la chanson de Fortunio.
Croyez que je vais dire qui j'aurais mis, je ne saurais pour un empire. Vous la nommez, nous allons chanter à la ronde. Si vous voulez que je l'adore et qu'elle est blonde,
l'incomparable voix d'Yvonne Printemps dans cette chanson de Fortunio. Donc cette mélodie pour la pièce de Musset, créée en 1848, donc l'année de l'accession en fait de Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, à la présidence de la République. Donc on est dans vraiment cet effet de bascule. L'autre bascule dont vous nous parliez, Jean-Christophe Keck, après la grande défaite de la France face à la Prusse en 1870. Et donc on évoquait, juste avant d'avoir écouté cette mélodie, ce contexte qui aurait pesé au premier chef sur l'œuvre de Fantasio et son succès. Peut-être aussi, on peut avoir d'autres lectures, peut-être un Thomas Joly aussi.
Je voulais vous poser la question, justement, monsieur Keck. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le choix de cet auteur, de ce romantique, donc, et aussi, je trouve, par rapport aux autres œuvres d'Offenbach, une œuvre qui est quand même beaucoup plus intime, où il se livre davantage, on dirait qu'il se met beaucoup plus à nu, et donc qui surprend, parce qu'on n'est pas habitué à entendre cet Offenbach-là, et peut-être alors, est-ce que c'est une erreur de dire que le public n'attendait pas ça de lui, c'est-à-dire qu'il était victime lui-même d'être un petit peu pas l'amuseur, mais oui, enfin, il y a une chose de ça chez lui, et que donc tout à coup, cette œuvre qui est plus personnelle, plus intime, plus nuancée, eh bien, n'a pas séduit pour ça.
Ça me fait très plaisir de vous répondre parce que c'est un peu mon cheval de bataille. De dire en fait que bon, il y a quand même une grosse légende qui dit qu'Offenbach, toute sa vie, a écrit des choses amusantes, a été un peu l'amuseur public du Second Empire pour, à la fin de ses jours, écrire comme à regret un testament philosophique, testament musical, pardon, qui était Les Contes d'Hoffmann et la seule œuvre seria d'Offenbach. C'est totalement faux, ça, par contre. Si on regarde toute la carrière d'Offenbach, depuis son plus jeune âge, Offenbach parsème son œuvre de pièces sérieuses, comme Fantasio. Par contre, autre chose, c'est que le public ne voulait pas de cet Offenbach-là. Ça, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que Offenbach, toute sa vie, a voulu aussi montrer qu'il était un compositeur, un vrai compositeur, tout simplement, et pas simplement un compositeur de musiquette, comme Berlioz l'accusait parfois. Mais bon, le public aimait son Offenbach distrayant et revenait là-dessus. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que malgré tout, si on regarde l'œuvre d'Offenbach en général, il n'y a pas une pièce où on n'a pas justement cette alchimie entre le bouffon et la musique plus romantique, plus profonde, plus sensible. Que ce soit même dans les grands, dans La Belle Hélène, La Grande Duchesse, dans toutes ces choses qui sont des bouffonneries, il y a toujours une part de sensible, une part de romantisme. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que dans Fantasio, l'équilibre n'est pas le même. Mais il y a quand même des passages très très bouffes dans Fantasio. On a le duo diplomatique du prince et de Marinoni, on a un quintet dans le deuxième acte. Tout ça, il y a quand même des passages qui sont bien amusants. Hein.
Vous avez cité d'ailleurs Jean-Christophe Keck en parlant d'Offenbach et en disant que pour lui, d'une certaine façon, Fantasio était un bourgeois qui avait besoin de sa carapace, oui, un bourgeois triste, balançant entre la farce et la mélancolie.
Mais je pense que c'est Offenbach lui-même. Offenbach s'est complètement mis dans la peau de Fantasio, parce que quand on regarde, bon, pareil, on dit toujours Offenbach organisait des grandes fêtes chez lui vendredi soir, c'était un homme très heureux, très prime-sautier. Par contre, on fait complètement abstraction de l'être d'Offenbach, où il dit à ses amis, si je vous avais pas, je me serais déjà tiré une balle dans la tête. Ah bon, ça va pas du tout avec Offenbach, ça, avec l'image qu'on veut s'en donner. Il y a toute une période où il veut partir aux États-Unis tellement qu'il est déprimé de Paris. En fait, Offenbach, je pense, était un grand maniaco-dépressif. Lui-même se soignait par la spiritualité de sa musique. Et ce qui est fou, j'ai découvert récemment des partitions qui ont été composées dans les pires moments de sa vie, et ce sont les œuvres mais les plus joyeuses et les plus bouffonnes. Je me suis toujours demandé où est-ce qu'il allait chercher cette force-là.
Oui, c'est la musique médicament.
Ah ben complètement, mais c'est son truc.
On va écouter la balade à la lune. Pouvez-vous nous dire où ça se situe dans l'œuvre de Fantasio? On écoutera Marianne Crébassa, qui assurera le rôle titre de Fantasio dans la production de l'Opéra Comique en 2017, donc qui aura la chance de travailler justement avec Thomas Joly. On reparlera sans doute, et Thomas aussi. Toujours cet extrait capté par France Musique en juillet dernier. Donc, quelle est cette balade à la lune d'après
vous? En fait, elle se situe dans le tout début de l'œuvre. Hein, c'est Fantasio arrive, c'est l'arrivée de Fantasio en scène, où Fantasio et justement dans son univers. Alors tout le monde s'amuse, tout le monde est en fête, et bien lui, il est rêveur, il a le spleen, quoi, il faut bien le dire, et il va chanter cette balade. On peut dire qu'elle ne porte rien à l'action, rien du tout. C'est une parenthèse, un pur moment d'art et de belle musique. Mais pour moi, c'est une des plus belles pages qu'Offenbach ait composées. C'est un chef-d'œuvre, cette balade à lui.
Voyez dans la nuit brune
Marianne Crébassa dans La romance à la lune, extrait de Fantasio de Jacques Offenbach, donc dans cette production de l'opéra Berlioz au festival de Radio France Montpellier en juillet dernier. J'ai la conviction qu'on ne pourra dorénavant écrire l'histoire du XIXe siècle sans y faire intervenir Offenbach et sa réussite comme l'un des éléments les plus caractéristiques de l'époque, déclarait le critique Max Nordau après la mort du compositeur. D'ailleurs, Jean-Christophe, vous le soulignez tout à l'heure, que peut-être la violence de la charge critique à l'égard d'Offenbach au moment de la défaite française est à la mesure du coup de tonnerre de cet homme dans le paysage musical français. Mathias Auclair, comment est-ce qu'on peut situer Offenbach dans ce genre nouveau qui va émerger dans cette France bourrée de privilèges, d'institutions marquant leurs prérogatives? Comment Offenbach s'est positionné?
Effectivement, il faut replacer la naissance de l'opéra comique, du genre opéra comique, dans le contexte de l'Ancien Régime et des théâtres à privilèges, puisqu'en fait, les grandes scènes ont un privilège royal qui leur donne l'exclusivité sur une forme, sur un genre, et en fait, ce genre, il est caractérisé par un certain nombre d'éléments, mais notamment, est-ce que l'on y chante ou est-ce que l'on y parle? Et donc, lorsque Louis XIV crée en deux temps l'Opéra de Paris, en 1669, puis en 1672, qui est la fondation de l'Académie royale de musique au profit du surintendant Lully, il donne un privilège exclusif à l'opéra de donner des ouvrages tout en musique. quelle que soit d'ailleurs la langue. D'une certaine façon, ça occupe le terrain de manière extrêmement importante et ça interdit à tout autre théâtre de donner ce genre. Et les lois sont là pour qu'on les contourne, donc évidemment, les différents théâtres essayent de les contourner. Et la manière de les contourner, ça a été d'adopter des genres mixtes. Et évidemment, le genre mixte par excellence, c'est celui qui panache du chant et de la voix. Alors, le théâtre de la foire est particulièrement habile dans cette forme, et c'est comme ça que naît l'opéra comique, finalement. Alors, ensuite, le genre est reconnu officiellement par le Premier Empire, avec les décrets sur les théâtres, et le fait que l'opéra comique devient une scène à part entière, et qui est caractérisée d'ailleurs par ce genre, qui mêle paroles et musique, face... à la Comédie française, autre théâtre subventionné qui a le privilège sur
qui
le genre.
Qui détient un privilège et qui le fait savoir. Hein, ils sont très procéduriers, d'ailleurs.
Exactement. Oui. Alors, l'opéra et la Comédie française n'ont pas la même façon de protéger leur genre. La Comédie française interdit aux autres de le faire et l'opéra concède des autorisations moyennant finance. C'est deux façons de monnayer ou d'utiliser son privilège. Finalement, les interdictions sont très incitatrices de modernité et de nouveauté. Et donc, on doit finalement à ces interdictions la naissance d'un genre nouveau. Et vous savez que l'opéra comique est le genre moderne par excellence pendant tout le 19e siècle et le début du 20e siècle.
Mais ce qui est intéressant, Mathias Auclair, c'est que, à la différence de l'opéra qui naît d'un geste politique, comme vous nous le dites, l'opéra comique naît d'une pratique.
Il est vrai que ce n'est pas à l'origine un... Enfin, l'opéra comique en tant que théâtre...
N'intéresse pas le pouvoir politique.
Non, c'est, pour ça. Non. C'est d'ailleurs un
c'est
genre
ce
qui a sa naissance beaucoup plus populaire, en fait. Mais en fait, au moment où Offenbach compose son opéra comique, son opéra bouffe, et il est créé, en fait, le genre opéra comique a beaucoup évolué, à tel point qu'on donne à l'opéra comique déjà des œuvres toutes en musique. En fait, ces interdictions sont tombées et le privilège est en train complètement de tomber parce qu'il y a eu les grandes lois de liberté des théâtres sous le Second Empire. Et finalement, il n'y a plus d'obligation pour Offenbach à écrire dans ce genre très particulier.
Évolution des lois, d'ailleurs, qu'on doit à Offenbach, hein, n'oublions pas. C'est lui qui a fait tomber les privilèges. Parce que donc en 1855, en fait, Offenbach donc crée son théâtre des Bouffes parisiens, va être à la merci de l'administration avec un cahier des charges vraiment minimaliste, et il ne va avoir de cesse, comme disait Mathias Auclair, de justement rouler l'administration, d'ajouter des personnages alors qu'il a droit qu'à deux personnages, mais il en met trois. Par exemple, dans Croquefer, il va carrément mettre des personnages avec des pancartes. Mais ça, c'est d'ailleurs une chose qui se faisait déjà sur les tréteaux, hein, l'opéra comique, c'est beaucoup plus ancien. Mais il reprend ce genre de subterfuge. Il fait mimer, par exemple, des personnages, il fait aboyer des personnages. Enfin bon, tout ça pour se moquer de l'administration qui va en avoir ras-le-bol, il faut bien le dire, et qui, au bout d'un moment, va tout laisser tomber. Et en 58, Offenbach va pouvoir créer son Orphée aux Enfers avec tous les personnages qu'il veut. Tout ça, d'ailleurs, va se faire en douceur. Hein, il va y avoir des décrets, bien sûr, mais petit à petit, l'administration va lâcher du lest et va laisser les théâtres. D'ailleurs, le Théâtre des Variétés, par exemple, où va être créée la Belle Hélène, à l'origine, ne pouvait pas, par exemple, faire des pièces lyriques. Hein, il n'avait que droit à des pièces de théâtre parlé. Et puis finalement, tout ça, c'est à ce moment-là, donc début des années 1860, que tout va se mélanger.
Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouver.
circonstances fâcheuses nous font mal tourner malgré nous. Témoin l'exemple de ma mère. Quand elle vit le signal Dieu, qui vous le savez est mon père.
La blonde par Alix Leceau, accompagnée par Elsa Lambert, en direct du petit auditorium de la BNF. Extrait de La Belle Hélène, opéra bouffe composé par Offenbach en 1864. Jean-Christophe Keck.
Au moment où Fantasio est créé, le genre de l'opéra comique est en déliquescence totale. C'est-à-dire que Offenbach s'en plaint dès ses premiers ouvrages. Il dit « je veux redonner à l'opéra comique ses lettres de noblesse ». Son but, en fait, c'est de créer un genre, alors qu'on va des fois appeler opérette, des fois opéra bouffe, avec différentes appellations, mais son but, c'est de revenir à ce qu'il appelle cet esprit français de l'opéra comique qui est complètement perdu. Il dit d'ailleurs « aujourd'hui, à l'opéra comique, on fait du petit grand opéra ». Donc Meyerbeer, Halévy, tout ça. Et c'est vrai que quand on voit certains ouvrages qui étaient écrits à l'époque, bon ben surtout Carmen par exemple. Carmen, c'est 1873, c'est juste après Fantasio, hein. 75 pardon, oui, 75. Et là, bon ben on n'est pas du tout dans l'esprit de l'opéra comique. Si on compare Le Chalet d'Adam et Carmen, mais c'est deux mondes complètement opposés.
Là, vous nous offrez une transition sur un plateau, Jean-Christophe Keck, parce qu'on a un enregistrement de Carmen, Elisabeth Giugnali, dont vous allez nous parler.
Oui, alors c'est un enregistrement qui a été réalisé en 1911 par la firme Pathé. La particularité, c'est donc ce mixte de l'opéra comique qui est à la fois donc le chant et les dialogues parlés. Depuis Monteverdi, en fait, il y a véritablement toute cette problématique du contrat, je dirais, esthétique, sociale et politique entre la voix parlée et la musique. Alors la voix chantée est intermédiaire. Mais il y a aussi les instruments, il y a aussi le récitatif accompagné. Et alors en France, on a d'une certaine façon, en raison du contexte politique, on a effectivement opposé ce qui, dans d'autres pays, était plus une alternative, un nuancier, si je puis dire, puisque dans l'histoire des genres dramatiques et opératiques anglais, il n'y a pas de solution de continuité entre la tragédie, d'ailleurs entre la tragédie et la comédie non plus, il y a un mélange des genres, ce que la France n'aimait pas non plus. Donc c'est tout cet aspect. Donc c'est vrai que l'opéra comique a été investi souvent de ce problème, de cette dialectique entre le chant et la parole, mais la parole elle-même, elle s'exprime, enfin pour la langue française, la belle parole c'est une parole musicalisée, si je puis dire, et inversement, le beau chant c'est un chant avec une déclamation rhétorique. et qui joue de la langue. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cet équilibre et cette utopie devant soi quand on aborde ses œuvres.
Vous êtes Navarraise, vous ? Sans doute ? Allons donc, il n'y a pas un mot de vrai. Vos yeux seuls, votre bouche, votre teint, tout vous dit bohémienne.
Bohémienne, tu crois ?
J'en suis sûr.
Au fait, je suis bien bonne de me donner la peine de mentir. Oui, je suis bohémienne, mais tu n'en feras pas moins que je te demande. Tu le crois, parce que tu m'aimes.
Moi ?
Oui, oui, tu m'aimes, ne me dis pas non, tu m'y connais. Mais regarde, la façon dont tu me parles. Et cette fleur que tu as gardée, ouh, tu peux la jeter maintenant, tu la n'y rien. Elle est restée assez temps sur ton cœur, le charme a opéré.
Ne me parle plus, tu entends ? Je te défends de me parler.
C'est très bien, seigneur officier, c'est très bien. Vous me défendez de parler. Je ne parlerai plus.
Ce qu'on constate aussi, c'est quand même qu'il y a une façon de porter la voix de l'époque, tant chez les acteurs que chez les chanteurs, qui a beaucoup changé. Dans le chant français, enfin, c'est très caractéristique, surtout chez les voix des femmes, mais qu'on retrouve aussi quand ils parlent. Qu'en revanche, la diction, là, l'articulation, est remarquable.
Nous avons le grand privilège d'accueillir Marie-Ève Mongère, qui nous fait le grand, grand plaisir d'interpréter le rôle d'Elsbeth. Et Alix Le Saut, qui sera Flamel et qui sera également la doublure de Marianne Crébassa pour Fantasio dans la production de l'Opéra Comique. On va les écouter dans le récit et la romance avec le duo entre Elsbeth et Fantasio, donc extrait de Fantasio de Jacques Offenbach.
Oh,
Marie-Ève Monger et Alix Lesseau, accompagnées par Elsa Lambert, donc dans ce récit et cette romance extraite de Fantasio de Jacques Offenbach, dont il est question aujourd'hui dans À pleine voix depuis le petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand. Marie-Ève, si vous voulez bien nous rejoindre, vous connaissez donc évidemment Thomas Joly, puisque vous allez travailler ensemble dorénavant, et vous connaissez aussi Jean-Christophe Keck, je
oui.
crois.
Et oui,
hein, parce et oui, que... mon... Premier engagement en France, Jean-Christophe ouais. était chef d'orchestre. Donc,
C'était Mesdames de la Halle à l'Opéra de Tours.
Oui, voilà.
Et Marie-Ève, vous nous avez confié, parce que nous, on a été fascinés, parce que la semaine dernière, on a eu la chance qu'il y ait eu un premier atelier organisé par l'Opéra Comique autour de Fantasio. Et on a tous été surpris, parce que vous avez un très bel accent québécois.
Oui.
Et quand vous êtes en situation de parler, chanter donc à l'Opéra, il n'y a pas d'accent.
Eh ben
comment
non.
ça se fait?
Ben, ça a été un certain travail, mais je me souviens sur Mesdames de la Halle, c'était mon premier contrat oui, oui. en France et j'étais plutôt anxieuse, je l'avoue, parce que bon, j'avais fait un peu d'opérette, mais à la maison, autour de Montréal, dans le nord du Québec. Et donc, cette question de trouver cette voix qui serait reconnue par un public français et qui serait pas... Oui.
Mais ça nous avait d'ailleurs bien surpris, parce que aussi, je me rappelle, c'est Franck Thézanne qui mettait en scène. Hein,
oui.
Et moi, ça m'avait épaté, parce que bon, on va se tutoyer là quand même. Je t'entendais oui, parler dans les coulisses avec cet accent magnifique québécois. Puis dès qu'elle était en scène, hop, tout ça, ça disparaissait. Oui. Moi, j'étais épaté.
Parce hein. qu'au Québec, on appelle le français normatif. Alors, je te
voilà.
Que ça m'a fait hurler de rire.
Oui,
le français
effectivement.
Normatif.
Et c'est un français qu'on entend quand même au théâtre. À Montréal, c'est aussi un français qu'on entend à la télévision. Ça fait partie de nos vies. Le français normatif n'est pas nécessairement parlé dans la rue, mais il fait partie de nos vies. Donc, c'est pas quelque chose qui est non plus très loin pour nous Québécois.
Et vous nous faisiez une remarque très intéressante aussi. Vous changiez jusqu'à votre tessiture quand vous parliez français,
un peu,
anglais.
Oui. Effectivement, il y a une certaine tessiture dans chaque langue et on parle de façon différente et on est même un peu différent nous-mêmes. On a une personnalité qui ressort, qui est un peu différente, dépendamment de cette langue que l'on parle à ce moment-là. C'est assez étrange comme phénomène. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais effectivement, il existe.
Est-ce que quelque chose pourrait avoir un rapport avec le théâtre, Thomas, sur le rapport à l'incarnation, sur le fait que vous qui développez un théâtre, justement, où la vocalité est au centre, où on la sent très savamment construite, cette vocalité. Quelque chose passe à travers la voix, de ce que pour exprimer, en voyant la pièce de Richard III que vous avez montée là récemment, et tout le travail sur Shakespeare que vous menez depuis plusieurs années, le travail sur la voix a l'air d'être vraiment très finement pensé, articulé.
Pour rebondir effectivement sur les Shakespeare, Shakespeare est donc un auteur anglais, ça je vous apprends rien, que nous jouons en français, traduit. Et effectivement, en anglais, ce ne sont pas les mêmes notes, effectivement. Il y a un écart. Je travaillais en plus avec un acteur américain qui s'appelait Jeffrey Carey dans Henri VI, qui lui parlait français dans le spectacle, mais avec, effectivement, il parlait très très haut dans les aigus ou dans les graves, beaucoup plus que nous qui avons, je crois,
une amplitude
beaucoup plus serrée. Non, je suis pas spécialiste en la matière, mais il me semble que, voilà, tout le monde dit oui avec la tête, mais ça ne se voit pas à la radio, c'est pour ça que... Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que la langue de Shakespeare, bien qu'elle soit traduite en français, nécessite quand même une prise en charge différente de celle de Molière, par exemple, ou de Musset. D'abord parce qu'il y a du vers, en tout cas là, la traduction que nous utilisions était en vers, et que je veux qu'on respecte ça. Et puis parce que la langue de Shakespeare, mais c'est son énergie, alors est-ce que... Donc c'est pas que son origine anglaise, mais l'énergie de Shakespeare, le choix de ces mots, de ces constructions de phrases et la très belle traduction de Lynn Cotteny pour Henri VI et Jean-Michel Desprats pour Richard III, nous oblige à prendre le travail vocalement différemment. Moi, je dis souvent que Shakespeare est comme une espèce de fleuve bouillant, un fleuve qui a un courant très fort et que c'est à nous, les acteurs, vocalement, mais pas que aussi physiquement, de se débattre dedans. Alors, soit on nage dans le courant, soit à contre-courant, on peut évidemment rester libre à l'intérieur, mais le fleuve avance. C'est une force un peu comme ça, un peu immuable, dans laquelle il faut savoir se fondre. Et puis il y a la question de la durée aussi qu'on peut évoquer, parce qu'en ici, ce qui dure 18 heures par exemple, vocalement, ça nous emmène à des endroits un peu particuliers. Richard III, c'est 4h30, et pour le coup, moi qui joue le rôle, c'est 4h30 de parler, ça m'emmène aussi ailleurs. Peut-être on y reviendra peut-être, mais en tout cas, ça clairement...
Mais sur la question du personnage, justement, parce qu'on pour rebondir par rapport à ce que disait Marie-Ève, ce rapport d'identité par rapport à une langue, là, le rapport au personnage vous amène à chercher une couleur de voix. Alors, on commence alors.
Supposons qu'il n'y ait point de royaume,
pour Richard. Quelle autre jouissance le monde peut-il offrir? Je chercherai mon ciel dans les bras d'une femme. Parlerai mon corps de brillants ornements et charmerai les belles dames de mes paroles et de mes regards. Pensée pathétique. Et plus improbable encore que la conquête de 20 couronnes d'or. Mais quoi? L'amour m'a renié. Dès le ventre de ma mère. Et pour m'exclure de ses tendres lois, il a suborné la fragile nature par quelques présents pour qu'elle dessèche mon bras comme un arbuste flétri. Pour qu'elle élève sur mon dos une odieuse montagne où trône la difformité qui raille mon corps. Pour qu'elle façonne mes jambes de longueur inégale et me fasse en tout disproportionné. Une espèce de chaos, ou un ourson mal léché dont la forme ne rappelle en rien celle de sa mère. Suis-je donc un homme fait pour être aimé? Ça, monstrueuse erreur, que de nourrir une telle pensée! Eh bien, puisque les cieux ont ainsi façonné mon corps, que l'enfer fasse mon âme difforme pour y répondre, puisque cette terre ne m'offre d'autre joie que celle de commander, de réprimer, de dominer quiconque est mieux fait de sa personne que moi, mon ciel à moi sera de rêver à la couronner tant que je vivrai, de tenir ce monde pour l'enfer, tant que la tête qui surmonte ce tronc contrefait ne sera pas sainte d'une glorieuse couronne. Et pourtant, je ne sais comment obtenir la couronne, car bien des vies s'interposent entre moi et le butin. Et moi, comme l'homme égaré dans un bois épineux, qui déchire les épines et que les épines déchirent, qui se cherche un chemin et s'écarte du chemin, et ne sachant comment parvenir à découvert, se débat désespérément pour y arriver. Je suis tourmenté de ce désir de saisir la couronne d'Angleterre et de ce tourment. Je veux me libérer. Dussé-je me frayer un chemin avec une hache sanglante?
Par exemple, ce personnage, là, en plus, c'est le tout début du spectacle. Donc, j'arrive sur scène et je ne suis pas activé. Enfin, je suis échauffé vocalement, physiquement. Mais voilà, j'arrive sur le plateau et le fait d'enchaîner les vers, d'aller au bout des vers, de tenir la forme, fait qu'au bout d'un moment, ça s'entend, en fait, mon corps, la contrainte physique m'emmène ailleurs et le texte m'active. Je parle souvent de ça avec les acteurs. Je dis acteur et pas comédien parce que le but de notre travail, c'est comment est-ce que j'agis sur le texte pour que le texte m'agisse. C'est ça ma grande phrase avec les acteurs. Et là, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que j'agis, moi, en tenant la forme, en allant au bout des vers, en essayant de passer par chaque lettre, etc., chaque consonne et de pas en louper une. Et au bout d'un moment, c'est tout ce travail, le texte me le renvoie et donc me modifie vocalement. Là, par exemple, je passe beaucoup dans le nez parce qu'en fait, je pense que 4h30 de rôle, je ne pourrais pas les tenir avec une prise. Normalement, je suis plutôt un acteur ici, plutôt un acteur de gorge. Mais en fait, 4h30, je ne tiens pas. Ouais, et vrai, naturellement, ça passe tout seul dans le nez. Voilà.
Ouais, Marie-Ève Mongère.
Oui, ouais. Cette voix parlée, comme chanteur, on est formé à chanter, mais pas à parler nécessairement. Et c'est un travail qu'on découvre à l'opéra comique, à l'opérette, qui est extrêmement difficile, qui est vraiment très différent. Et une partie de ma formation récemment, dans les 5 dernières années, a été beaucoup de revenir à cette voix parlée, revenir à cette voix mi-parlée, mi-chantée, pour retrouver vraiment le naturel et l'essence de la voix pour ensuite chanter sur cette voix. Mais elle influe énormément ma voix parlée. Dès que je sors d'un cours de chant, ma voix parlée est 3 fois plus sonore. Clairement. Et donc, quand on se met à utiliser vraiment tous les instruments qu'on a, tous ces résonateurs dans la voix parlée, ça demande un travail un peu de fou et d'orfèvre ça porte des fruits, mais effectivement, le nez est un résonateur qui est tellement utile. et il y en a beaucoup d'autres, mais effectivement, ça aide beaucoup, parce que si on reste que sur presque le muscle vocal, très rapidement, on se fatigue, et c'est pareil en chantant aussi.
Par exemple, là, de me faire passer dans le nez sur Richard III, Shakespeare, en fait, m'invite, enfin, c'est pas Shakespeare, il n'est pas là, il ne me l'a pas dit, mais il y a quelque chose de naturel qui m'emmène vers cette chose un peu pincée dans le nez, qui va bien à Richard, parce qu'il est, il est tordu, il est, voilà, et ça fonctionne, je trouve, mais c'est naturel, c'est pas une composition.
Oui, c'est-à-dire que vous m'avez dit, Thomas Joly, que ça vous est apparu, ça n'a pas été conscientisé au départ, quoi.
Non, mais vous savez, c'est comme quand on se met une écharde dans le pied, on trouve, le temps que ça se soigne, on trouve comment ouais, marcher ouais. pendant les ouais, quelques ouais. jours. Bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que moi, il fallait que j'enquille 6 semaines de représentation, 6 soirs par semaine de 4h30 de Shakespeare. Et le moyen de le faire sans avoir recours ni à des produits illicites, ni à trop de cortisone, même zéro cortisone, c'est de trouver naturellement comment est-ce que notre organe peut se placer. Mm-hmm. Et 4h30, moi, j'ai trouvé naturellement cette solution.
Ça me fait penser, Thomas Joly, à ce que vous m'avez dit, de la voix chuchotée à la voix qui petit à petit prend sa place dans l'espace. Quelque chose qui a un rapport avec ce que dit Marie-Ève.
Je suis très heureux d'entendre ça, effectivement, parce que je suis entièrement d'accord. Ouais. La question de la voix projetée que j'oppose à la voix proche. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas projeter sa voix. Parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille sans micro, dans un art de la prolifération, de la vocifération. Aussi parce qu'en ce moment, je suis sur Shakespeare et que ce n'est pas des gens qui sont au café en train de se demander s'ils s'aiment ou s'ils ne s'aiment pas. C'est des gens qui perdent leur enfant devant leurs yeux, qui sont assassinés, s'empoisonnent. Enfin bon, voilà, on est quand même dans des enjeux un peu plus grands qu'un autre type de théâtre. Donc, à un moment donné, on est dans de l'épique. Voilà. Donc, il faut du souffle épique. Donc, la question de la force vocale, évidemment, et puis une puissance vocale qui englobe à la fois l'espace du public et qui résonne aussi dans la cage scénique. Mais un acteur, bien souvent, parce qu'il doit se faire entendre ou veut se faire entendre, projette sa voix, et quand je dis projette, c'est-à-dire qu'il la jette, c'est-à-dire qu'elle n'est plus connectée à lui. Et donc, pour pallier à ça, dans le travail, je travaille avec les acteurs en voix proche, en opposition à la voix projetée, mais j'essaie de trouver cette voix proche, voire même chuchoter quand il est trop difficile, pour trouver justement cette vibration avec lui-même, cette honnêteté vis-à-vis de soi. Je crois que les interprètes, qu'ils soient d'ailleurs chanteurs ou acteurs, ont le courage de l'honnêteté de soi. Je crois que c'est le seul talent qu'il faut pour faire ce métier. Après, le reste, ça s'apprend. Mais avoir le courage de l'honnêteté de soi, c'est la qualité première.
Je pense qu'il y a une différence à faire entre volume et projection. Même dans le chant, chanter très fort n'est pas nécessairement la voix qui, dans une salle de 3000 personnes, passe le plus. Pas du tout, c'est vraiment une question d'harmonie qui fait que la salle résonne avec soi. Et ce n'est pas nécessairement dans le volume, mais je pense que c'est pareil pour la voix parlée.
Nous avons le grand plaisir de vous écouter de nouveau dans un extrait de Fantasio, l'air d'Elsbeth, extrait du 2e acte.
Cachons l'ennui de mon âme oppressée. Thank you.
Dans mon cœur, qui donc peut lire Air d'Elsbeth, deuxième acte de Fantasio de Jacques Offenbach, interprété par Marie-Ève Manger, accompagnée par Elsa Lambert depuis le petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, qui accueillait l'émission à pleine voix mardi dernier. Merci donc à William Miconnet, Alain Barré, Zaki Zouglami, Jean-Loup Graton, Frédéric Ramirez et Luc Verrier pour leur accueil. Pierre Bornard, Gérard Cognier, Alexandre James ont réalisé la prise de son Radio France à la BNF et Jean Richard Dufour a effectué le mixage d'À pleine voix, une émission préparée par Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, bien sûr à 16h, pour une émission sur les différents usages de la voix, du yodel jusqu'au black metal, en compagnie de la musicologue Catherine Rudan. Très bonne journée à l'écoute de France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.